vous prions au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est une joie de se retrouver ce matin. C'est un temps un peu spécial. Je sais pas si vous avez. Je pense que vous savez tous, hein. J'ai ramené un peu une guirlande. Parce que c'est aussi un temps de fête aujourd'hui. Alors, pas seulement pour ça, vous allez voir. Mais c'est un temps. On va remercier aussi le Seigneur pour le ministère de Joël et Annick, Francis et Anne parmi nous. Donc, ce n'est pas seulement pour ça que j'ai mis des guirlandes. Mais si vous vous rappelez, on a commencé une série de prédications il y a 2 semaines, intitulée Être une communauté prophétique. On est appelé à être une communauté prophétique. Comme le livre des Actes le montre, et on avait vu ce texte de la Pentecôte la dernière fois. Et un des premiers aspects qu'on avait vu, une des premières caractéristiques d'une communauté prophétique, selon le livre des Actes, c'est aussi sa diversité. De toutes les générations, de toutes les nations, les origines, c'est le peuple que Dieu veut constituer. Et on le voit le jour de la Pentecôte, hein, parce que lorsque le Saint-Esprit vient sur les disciples, ils se mettent à parler dans les langues de toutes les nations. Ça veut dire que ce peuple, ce groupe de disciples n'est pas appelé à rester juste simplement entre juifs de Galilée ou de Judée, mais à s'étendre vers les nations. Et lorsque l'apôtre Pierre prend la parole pour expliquer ce qui se passe, il va citer cette parole du prophète Joël qui dit « Je répandrai de mon esprit sur tout le monde, dit Dieu, vos fils et vos filles prophétiseront. » Vos jeunes gens auront des visions, mais aussi les seniors qui auront des songes, et même les esclaves, hommes et femmes, ils prophétiseront parce que je répandrai de mon esprit sur eux tous. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit n'est pas réservé à quelques messieurs juifs hein, d'un certain âge, mais hommes et femmes sont concernés, jeunes et moins jeunes. Et même les esclaves, qui étaient la classe sociale la plus basse à l'époque, la plus méprisée, même eux, ils font partie de ce peuple prophétique, qui est le peuple de Dieu, le peuple du Christ. Et donc, on avait vu que si nous sommes appelés à être la lumière du monde, cette diversité, quelque part, fait de nous un peu comme une guirlande multicolore. Alors, j'avais pas, voilà, c'est plus une couleur qui clignote, mais j'ai pas trouvé de guirlande multicolore. Il y a une image que j'ai utilisée pour ça, mais c'est ça l'image. On est tous diversifiés, et ça fait partie de ce que Dieu veut pour son Église. Et je crois que dans le livre des Actes, il y a une Église locale, une communauté locale qui manifeste cela peut-être de manière assez marquée, c'est l'Église d'Antioche. Et j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu ce matin sur cette Église, et je pense que vous verrez, ça résonne aussi en nous pour ce temps. Nous allons aussi remercier pour le ministère de Joël, Annick, Francis, Anne. Alors, on va lire 2 passages, le premier en acte 11, au verset 19, et on va lire jusqu'au verset 30. Ça va s'afficher. Acte 11, verset 19. Les disciples s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. Il faut vous souvenir, on parle de l'Église qui a démarré à Jérusalem, et il y a une persécution qui a commencé. Les chrétiens étaient au départ à Jérusalem. Il y a eu Étienne qui a été condamné à mort, qui a été lapidé. Même pas, il n'y a pas eu vraiment de procès. Et après cela, il y a une persécution. Et c'est à ce moment-là qu'arrive ce texte où les disciples, les chrétiens, vont commencer à sortir de Jérusalem. Et le texte dit qu'ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Mais ils annonçaient la parole qu'aux Juifs. Toutefois, quelques-uns d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-Juifs, en leur annonçant le Seigneur Jésus. Or, le Seigneur était avec eux, un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Bientôt, l'Église qui était à Jérusalem apprit la nouvelle. Elle envoya Barnabas à Antioche. À son arrivée, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli, il en fut rempli de joie. Il encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Barnabas était en effet un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint et de foi. Et un grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur, pardon, pas lui. Barnabas se rendit alors à Tarse pour y chercher Saul, futur apôtre Paul. Hein. Quand il l'eut trouvé, il l'amena avec lui à Antioche. Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'église et enseignèrent beaucoup de gens. C'est à Antioche que pour la première fois les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. À cette même époque, des prophètes se rendirent de Jérusalem à Antioche. Toujours Antioche, hein. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et prédit sous l'inspiration de l'Esprit qu'une grande famine sévirait bientôt dans le monde entier. Elle eut lieu, en effet, sous le règne de l'empereur Claude. Les disciples d'Antioche décidèrent alors de donner, chacun selon ses moyens, et d'envoyer des secours aux frères qui habitaient la Judée, le territoire de Jérusalem. C'est ce qu'ils firent. Ils envoyèrent leurs dons aux responsables de l'Église par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Puis le deuxième texte qu'on va lire, qui est beaucoup plus court, c'est le début du chapitre 13 des Actes, acte 13, versets 1 à 3, qui nous parle toujours de l'église d'Antioche. Il y avait alors à Antioche, dans l'église qui se trouvait là, des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode, le gouverneur, Hérode le gouverneur, et Saul. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné, prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Voilà deux passages qui nous donnent un petit aperçu des débuts l'église d'Antioche. Antioche, je ne sais pas si vous vous situez, c'est situé en Syrie à l'époque, hein, c'est une des plus grandes villes de l'Empire romain, la troisième plus grande ville à l'époque. C'est la capitale donc, de la province romaine de Syrie, donc la Syrie, c'est, vous avez Israël, vous avez aujourd'hui le Liban et puis la Syrie. Hein. Et c'est dans cette ville que va se développer une des églises les plus importantes et les plus influentes, pas seulement pendant quelques années, mais pendant tous les premiers siècles de l'Église. L'Église importante dans l'histoire de l'Église. Et la première chose qui devait surprendre ceux qui arrivaient pour la première fois peut-être au culte à l'Église d'Antioche, c'était probablement la diversité culturelle et sociale des membres. Et regardez simplement la liste des responsables qu'on a lue en acte 13, verset 1. Là, c'est juste les responsables, les prophètes, les enseignants, qui étaient un peu probablement le conseil de l'Église. Barnabas, premièrement, il nous est dit. Alors lui, c'est un juif de la tribu de Lévi, on nous dit dans un autre passage des Actes, hein, qui vient d'une famille même, donc de Lévi, de prêtres, hein, mais qui avait grandi non pas à Jérusalem, là où se trouve le temple, mais sur l'île de Chypre. Puis ensuite, il était parti à Jérusalem, il faisait partie de l'église de Jérusalem avant d'arriver à Antioche, comme on l'a lu tout à l'heure. Ensuite, il y avait Siméon. Siméon, c'est aussi un nom juif. Mais Siméon, il avait un surnom, on l'appelait, en grec, c'est Niger, c'est-à-dire le noir, littéralement. Probablement qu'il était originaire d'Afrique subsaharienne. Vous savez qu'il y avait des juifs en Éthiopie, notamment, ou au sud de l'Égypte, ce qui serait aussi le Soudan actuel. Et puis, il y avait Lucius de Cyrène. Lucius, ça, c'est un nom romain. Donc, probablement un romain, mais qui vient de la province de Cyrène. Cyrène, ou la Cyrénaïque, c'est en Afrique du Nord. C'est au niveau de la Libye actuellement. Vous voyez, donc on a des origines diverses. Un chypriote, un éthiopien ou soudanais, on ne sait pas trop d'où il est, un libyen, et puis Manaen. Manaen, là, c'est un nom juif. Et celui-là, on ne sait pas d'où il vient exactement, mais on sait quand même si, qu'il a grandi avec quelqu'un d'assez important, qui est Hérode le gouverneur. C'était Hérode Antipas, qui était celui qui a gouverné, la famille royale hein, des Hérodes, qui ont gouverné un temps la Galilée, en tout cas, pour Hérode Antipas. Bref, hein, Manaen, il ne venait pas de la, des banlieues défavorisées. Hein. Ils venaient de la cour du roi, de la haute société juive. Et puis il y avait Saul, c'est-à-dire le futur apôtre Paul. Saul, c'était un juif, comme l'indique son nom. Saül, hein, dans l'Ancien Testament. Et avant de rencontrer Christ sur la route de Damas, on connaît tous son histoire, c'était même un pharisien, nous dit la Bible. Un juif bien zélé pour la loi, qui connaissait bien la loi de l'Ancien Testament. Et non seulement c'était donc, vous voyez, un bon juif, bien ancré, même un enseignant, mais aussi un citoyen romain, puisque son nom romain, Paulus, hein, Paul, voilà, était celui qu'on va en, par lequel on le connaît en général. C'est donc un citoyen romain qui a grandi, non pas là aussi non, en Palestine, Israël, mais à Tarse. À Tarse, c'est au sud de la Turquie actuelle. Oui, donc on a des Turcs, des Nord-Africains, des Chypriotes, tout ça, ils sont juste 5 personnes, hein, c'est le conseil d'église d'Antioche. C'est assez hétérogène hein, quand même, des origines si diverses, et on peut penser aussi des classes sociales assez diverses, c'est assez probable. Alors déjà, à notre époque, avoir un conseil d'église de ce type, c'est assez étonnant, c'est pas courant, mais il faut se dire qu'on est au 1er siècle, dans une société où les classes sociales sont très sectorisées, où c'est pas du tout habituel, c'est quelque chose de révolutionnaire. C'est quand même incroyable, cette diversité-là. Et cette diversité, c'est possible qu'en Jésus-Christ. Ça peut être que l'action du résultat, le résultat de l'action, pardon, du Saint-Esprit. Et je crois que l'Église d'Antioche était la preuve vivante que Dieu avait commencé à se constituer un peuple de toutes les nations, de toutes les classes sociales, comme il l'avait promis à la Pentecôte. Mais l'Église d'Antioche, vous savez, ce n'est pas un cas unique dans l'histoire de l'Église. Il suffit de regarder autour de vous. Je ne sais pas combien on est ce matin, peut-être 70, 80, je ne sais pas. On n'est pas non plus 10 000, hein. Et pourtant, quelle diversité, hein. Vous pouvez regarder autour de vous, hein. Vous êtes l'Église de communauté du point du jour. Vous prenez déjà l'âge, je pense qu'on a un peu pas mal d'âge. Bon, les plus petits, ils sont partis à l'école du dimanche, il y en a, je crois, ça doit être 3 ans, le plus petit, quoi, ou peut-être même moins. Mais je crois qu'on a ici des moins de 20 ans, non? Levez la main, les moins de 20 ans. Ah, il y en a quelques-uns, quand même. Ah, bon, il y en a qui trichent un peu. Entre 20 et 30, il y en a aussi, hein? Ouais, là, il y en a quelques-uns. Entre, alors, 30 et 60, pour ne pas révéler trop les âges, hein. On a quelques-uns aussi, hein? Et plus de 60, il y en a aussi, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a même plus de 70, hein, n'est-ce pas? On a un peu tous les âges ici. Et puis les origines. Qui est ici qui n'est pas né en France? Qu'est-ce qui n'est pas né en France? Ah, c'est presque la moitié, hein. Et je pense que si on faisait la liste des pays, c'est assez fou le nombre de pays dont on est originaire ici. Et si on fait aussi la liste des métiers, par exemple, qu'on représente, voilà, on a vraiment de tout dans l'Église. Je ne sais pas si on réalise ça. Une telle diversité pour 70-80 personnes, hein, on n'est pas non plus 20 000. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'autres endroits où des personnes si diverses se rencontrent régulièrement, et pas juste pour regarder un match de foot ou pour un spectacle, hein, mais pour créer des liens profonds. On n'est pas juste des gens qui s'assient les uns à côté des autres. On s'appelle frères et sœurs, on a des relations, on va développer des relations. Je ne sais pas si on réalise le caractère assez incroyable que c'est. On vit dans un monde où les nations se font la guerre. Où ceux des banlieues défavorisées et ceux des quartiers huppés ne se regardent pas toujours avec amitié. On se regarde de loin, hein. Où les jeunes et les moins jeunes ne se rencontrent pas toujours non plus. Hein. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est venu démolir les murs de séparation. entre juifs et non-juifs, entre les nations, pour se constituer un peuple de toutes les nations, de toutes les générations, de tous les arrière-plans, pour la gloire de Dieu. Et le livre des Actes nous dit que ça, c'est seulement possible par l'action du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça, l'Esprit de Dieu qui peut faire cette grande œuvre. Et il faut qu'on réalise ça, on est dans un monde qui est divisé, un monde qui est opposé, mais on doit réaliser comment être une communauté à la fois diversifiée et unie, c'est un témoignage puissant pour notre société de l'action de Dieu, de l'action du Saint-Esprit, de l'œuvre du Christ. Et donc, vous voyez, avant même de faire quoi que ce soit, simplement en étant là, ensemble, en étant qui nous sommes porteurs d'un message prophétique pour ce monde. Est-ce qu'on réalise ça? Alors, vous allez me dire, bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, dans la réalité, ce n'est pas toujours facile, hein? Moi, je me dis, est-ce que dans les couloirs de l'église d'Antioche, il y avait parfois des remarques pas toujours très positives? Ah, Siméon, là, le Nigérien, moi, je l'aime bien, hein, je l'aime bien. Il est sympa, il met l'ambiance. Mais bon, on n'est pas obligé de crier quand il prie, quand même. Hein. Je ne sais pas, peut-être qu'on disait ça. Ou peut-être d'autres qui disaient, ah, c'est vrai que la femme de Lucius, là, le Libyen, il fait du bon couscous, hein, mais... Mais bon, on ne va pas manger du couscous à toutes les agapes quand même. Non, mais Manahen, lui, on sait, il vient de la haute société, hein, on sait. Hein. Mais là, son insistance pour qu'il y ait tout le temps un peu de solennité pendant le culte, ça va, on ne va pas toujours faire des chichis. Hein. Et puis l'autre Saul, là, le pharisien. Ah oui, oui, lui, il connaît bien les Écritures, lui, ça c'est sûr. Mais bon, des fois, ses prédications jusqu'à pas d'heure, là, c'est un peu long. Hein. Et bon, monsieur, je sais tous les versets par cœur. Ça va un moment, on n'a pas tous eu la grande chance d'aller dans des grandes écoles de la capitale. Hein. Je ne sais pas s'il y avait ce genre de bruit de couloir dans l'église d'Antioche. Mais je sais que malheureusement, ce genre de remarques s'entendent dans d'autres couloirs d'église de notre époque. Alors pas à la communauté chrétienne du point du jour, n'est-ce pas, hein. Ça n'arrive jamais chez nous. Il n'y a jamais de bruit de couloir ou autre. On n'est pas comme ça, hein, n'est-ce pas, hein. Mais quand même, soyons honnêtes, la diversité c'est bien, mais ce serait plus simple si on était tous du même âge, tous de la même culture, origine. Pourquoi pas tous du même sexe, une église pour les hommes, une église pour les femmes, ça serait quand même pas un, des fois. Hein. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu pour son église. Ce n'est pas ce qu'il souhaite. Ce n'est pas comme ça qu'il présente son église dans la parole de Dieu. Et l'exemple de l'église d'Antioche montre qu'une église qui expérimente une diversité telle qu'on l'a vue, ça peut être aussi une église vivante, une église dynamique, portée par l'Esprit, et qui va avoir un impact non seulement dans la ville d'Antioche, mais bien au-delà, à travers les missionnaires qu'elle va envoyer partout, pendant des années. Et pas seulement pendant 10 ou 20 ans, mais on sait, d'après l'histoire de l'église, pendant des siècles. Au moins un siècle ou deux. Alors, quel est le secret de cette église d'Antioche? Alors, je vais relever trois pistes à partir des textes que nous avons lus. Trois pistes, je crois, qu'on peut s'approprier pour être une communauté qui vit bien sa diversité. Premièrement, ça semble évident, mais il faut le rappeler, la communauté d'Antioche était centrée sur Jésus-Christ. Amen, hein? C'est vrai que c'est fondamental, mais on le voit aussi dans le texte. Acte 11, verset 20-21 nous montre comment naît cette église multiculturelle. Comment est-ce qu'elle se développe, cette église? Il y a des chrétiens qui arrivent de Jérusalem suite à la persécution. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, nous dit le texte. Et non seulement à des juifs, mais aussi à des non-juifs. Et le texte précise qu'un grand nombre de personnes se mirent à croire et à se convertir au Seigneur, à Jésus, parce que le Seigneur Jésus était avec eux, avec ceux qui annonçaient l'Évangile. Autrement dit, l'Église d'Antioche s'est développée parce que des chrétiens se sont mis à annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. C'est tout simple. Hein. Parfois, on complique les choses, mais annoncer Jésus-Christ, et c'est comme ça que l'Église grandira. Les disciples d'Antioche nous dit même le texte, ont tellement parlé du Christ à Antioche que les habitants d'Antioche se sont mis à les appeler chrétiens. En grec, c'est christianoi, c'est-à-dire les gens de Christ, littéralement. Oh, ceux du Christ, là, ceux qui parlent tout le temps de Christ, hein, les christianoi, là, là. Vous voyez, ils ont tellement saoulé tout le monde avec Jésus-Christ qu'on les a appelés les chrétiens. A priori, c'était plus un surnom péjoratif au départ qu'on leur a donné, les gens du Christ. Et c'est quand même un beau nom, au final. Hein. Et si on nous appelle chrétiens aujourd'hui, ben c'est quelque part grâce à ces disciples d'Antioche qui ont parlé tellement de Christ autour d'eux qu'on les a appelés chrétiens. C'est un bel exemple pour nous. Et je crois que souvent, nous oublions ce point. Hein. Jésus-Christ est le fondement de la vie de l'Église. Jésus-Christ, c'est celui qui est tout dans l'Église, qui est le fondement, le socle, c'est celui qui est le centre de nos temps de louange, c'est celui par qui nous pouvons prier le Père, c'est celui par qui nous sommes sauvés. Et c'est par lui que des hommes et des femmes de tous âges, de toute culture, de tout arrière-plan, de tout milieu, peuvent être sauvés, et seulement par lui. Comme le dit l'apôtre Paul dans ses lettres, hein, il développe beaucoup cette idée. Jésus est celui qui a démoli les murs de séparation entre juifs et non-juifs, celui en qui il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, mais un seul peuple, un seul Christ, nous tous, son Église. C'est important de se le rappeler toujours et toujours. Quand des choses accessoires sur nos habitudes, nos petites cultures ou autres viennent commencer à créer des tensions, Christ. Regardez à Christ, c'est lui qui nous unit. C'est lui qui fait de nous un seul peuple. Deuxièmement, l'église d'Antioche, c'est une église qui laissait le Saint-Esprit transformer sa vision du monde. Une église qui est à l'écoute de la parole de Dieu et qui laisse le Saint-Esprit transformer sa vision du monde. Et les deux passages qu'on a lus montrent que dans l'église d'Antioche, il y avait un bon équilibre entre l'enseignement et la prophétie. En acte 13, les responsables de l'église sont présentés comme des enseignants et des prophètes. C'est intéressant. Dans cette église, il y avait des enseignants et des prophètes en particulier. En acte 11, on nous dit que lorsque l'église d'Antioche commence à démarrer, il y a les sages un peu de Jérusalem, l'église qui était déjà bien établie, qui se disent « Ah, il faudrait leur envoyer quelqu'un un peu de solide qui va les enseigner, qui va les aider à avancer, les encourager. » Et donc, ils prennent un de leurs piliers, qui est Barnabas, qui était un pilier de l'église de Jérusalem à cette époque-là, et ils l'envoient à Antioche pour aider l'église. Et le verset 26 indique que que Barnabas d'abord va chercher Saul, parce que Barnabas est quelqu'un aussi de sage, d'intelligent, il va chercher Saul pour l'accompagner dans sa mission. Saul, donc, il va être l'apôtre Paul, qui est aussi quelqu'un de solide dans l'enseignement. On connaît ses lettres dans la Bible. Et donc le verset 26 indique que Barnabas et Saul vont tous deux travailler ensemble pendant une année à Antioche. Pour, dit le texte, enseigner beaucoup de personnes et aider ainsi l'Église à s'enraciner dans la parole de Dieu. Mais en même temps, le texte nous dit qu'il y a aussi des prophètes. Et nous avons deux exemples de prophéties qui vont être données dans l'Église d'Antioche. Je pense que c'est un bon exemple d'une Église qui, à l'écoute de ce que dit Dieu par l'enseignement de l'Écriture, inspiré par le Saint-Esprit, hein, les auteurs de l'Écriture sont inspirés par le Saint-Esprit, et aussi par des exhortations prophétiques qui sont inspirées aussi par le même Saint-Esprit, en tout cas qui devraient l'être. Et c'est probablement à cause de cette attitude d'écoute du Saint-Esprit que le Saint-Esprit peut transformer la vision qu'avaient ces chrétiens d'Antioche, cette vision du monde. Parce qu'il faut réaliser, hein, pour que des Juifs commencent à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, à parler du Messie, à des non-juifs, des goy, hein, comme ils disent, hein, les juifs, les nations, là, il faut quand même que l'esprit change leur mentalité. Hein. Ce n'est pas évident. Au premier siècle, pour un juif pieux, le fait même d'entrer dans la maison d'un non-juif, c'était déjà quelque chose d'impensable. Alors considérer un goy comme un frère, comme quelqu'un qui est membre du même peuple que moi, en Jésus-Christ, il faut un sacré travail du Saint-Esprit pour changer la mentalité culturelle de ce qu'ils avaient toujours entendu, leur éducation. La question qu'il nous faut poser ce matin, c'est est-ce que nous laissons aussi le Saint-Esprit transformer notre façon de voir ceux des autres générations, ceux d'une autre culture, ceux aussi parfois de l'autre sexe, hein? Ou est-ce qu'on laisse nos préjugés, notre éducation, notre culture, qui est aussi atteinte en partie par le péché, hein? Est-ce que c'est ça qui nous fait voir les autres, ou est-ce que c'est la façon dont le Seigneur les voit? Ah, de toute façon, hein, les jeunes d'aujourd'hui, oh, les personnes âgées, il nous faudrait plus de jeunes, hein. Ah, ceux de tel pays, là, bon, je ne vais pas donner d'exemple, vous mettez ce que vous voulez. Là, ils font que des problèmes dans l'Église. Hein. Ah, puis les femmes dans l'Église, hein, n'en parlons pas. Et des chances de... Vous voyez de quoi je parle, hein? Ce genre de raisonnement qu'on a parfois, ou de paroles même. Est-ce que notre vision de l'autre, elle est façonnée par nos préjugés ou par ce que Dieu dit de ses enfants? Quelle que soit leur origine, quel que soit leur âge, quel que soit leur sexe. Est-ce que nous sommes prêts à laisser le Saint-Esprit transformer nos raisonnements sur ces questions-là aussi, hein? Voilà une deuxième clé pour vivre cette diversité. Laisser le Saint-Esprit changer notre façon de voir le monde, pour la voir comme sa parole le voit et non pas simplement comme nous. La société le voit, ou notre culture, ou notre éducation le voit. Troisième chose, et dernier point, la communauté d'Antioche avait conscience de faire partie d'un peuple plus grand que sa communauté, un peuple qui le dépasse. Vous voyez, l'église d'Antioche, elle n'était pas repliée sur elle-même. Elle ne se croyait pas autosuffisante, elle n'agissait pas comme si c'était la seule église de Dieu sur terre, hein. L'église d'Antioche, elle savait qu'elle était seulement une communauté locale au sein d'une réalité bien plus grande, qui était l'église de Jésus-Christ, qui, elle, est partout ce peuple immense de toutes les nations. Et comment est-ce qu'on peut voir ça dans le texte? Il y a plusieurs indices. D'une part, on peut voir déjà que lorsque l'église d'Antioche reçoit cette prophétie d'Agabus, qui dit qu'il va y avoir une famine, qui va arriver sur le monde, et que lorsque cette famine arrive, qu'est-ce que dit l'église d'Antioche? Elle ne se dit pas, vite, faisons des provisions, vite, il faut vite qu'on amasse pour nous. Non, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé d'envoyer de l'aide aux chrétiens de Jérusalem. Partageons. Et pas focaliser, centrer sur ses propres besoins, mais sur ceux des chrétiens situés très loin, hein, qui sont, eux, dans une plus grande difficulté. C'est un premier exemple. Ils sont conscients que l'Église, ce n'est pas juste eux. Ils ont des frères et sœurs aussi ailleurs. Et deuxième exemple, qui va nous amener à quelque chose, vous allez voir où je veux venir, hein. L'Église d'Antioche a compris que les membres de sa communauté ne leur appartiennent pas. Ils appartiennent à Christ. Ce sont des membres du corps du Christ. Et le corps du Christ ne se limite pas à une église locale. C'est aussi le corps du Christ dans les autres églises de Boulogne, à Paris, ailleurs en France et partout dans le monde où des gens se réunissent au nom de Jésus. Et parce que le corps du Christ est plus grand que notre communauté locale, le chef de l'église, qui est Jésus-Christ, non pas le pasteur, hein, c'est Jésus-Christ le chef de l'église, et bien parfois, il peut envoyer des membres, ou même des fois des responsables, d'une église locale dans une autre, pour les aider. Cette église qui a besoin d'eux à ce moment-là. Et le texte qu'on a lu nous montre cela. L'Église de Jérusalem, à un moment donné, disent « Ah, tiens, Antioche, là, ils auraient besoin d'aide. Envoyons Barnabas. » Ils n'envoient pas le moins bon, voilà, celui dont on a envie de se débarrasser. Hein. Barnabas, c'est un pilier, c'est quelqu'un de bien. Voilà. Il était très valorisé dans l'Église primitive, on le voit dans le livre des Actes. Barnabas, il va aider l'Église d'Antioche, et puis il va chercher Saul hein, aussi. Et quelque temps plus tard, le Saint-Esprit va dire à l'Église d'Antioche, « Mettez à part Barnabas et Saul pour la mission. Laissez-les partir. Bénissez-les, envoyez-les. » Qu'est-ce que fait l'Église d'Antioche ? Elle aurait pu se dire, « Ah oh ben non, Seigneur, pas Barnabas et Saul. À la limite, Michel et Georges, hein, là, voilà, bon, d'accord, mais Barnabas et Saul, quand même, hein, c'est nos deux meilleurs prédicateurs, c'est nos deux piliers, là, pas Barnabas et Saul. Seigneur, on les garde pour nous. » Est-ce que c'est la réaction de l'Église d'Antioche ? Non. Elle prend le temps de prier, de jeûner, et elle bénit, et elle envoie, et elle soutient ceux qui vont aller bénir d'autres églises. Et créer, faire grandir l'Église du Christ ailleurs. Hein. Alors nous, on n'est pas l'Église d'Antioche, mais c'est vrai que dans l'histoire récente hein, de notre communauté, le Seigneur a envoyé à la communauté du Point du Jour deux pasteurs et leur épouse. Hein. Alors, je ne sais pas qui est Barnabas ou Saul entre vous. Bon, je crois qu'ils étaient tous les deux célibataires, donc bon, malheureusement, en tout cas Saul, c'est sûr, dans la base, c'est probable aussi. Mais nous, on avait même deux couples, hein, c'est encore mieux. Hein. Ça, c'est Priscille et Aquilas, voilà, on a aussi des exemples de couples. Hein. Il y a des femmes aussi qui sont valorisées dans le livre des Actes. Et voilà, ils sont venus pour un temps servir notre communauté. Ils n'ont pas... Voilà, ils sont venus, d'ailleurs, et ils ont servi la communauté. Et puis, ils sont partis, parce que vous aviez la conviction que c'était le temps pour une autre étape dans la vie de l'Église. Alors, contrairement à ce que certains d'entre vous auraient pensé, c'est pas encore tout à fait le temps de la retraite, hein, si j'ai bien compris, n'est-ce pas, Joël hein? Puisque maintenant... De vos deux couples, d'autres bénéficient aussi de leur ministère. D'autres églises bénéficient de leur ministère. Ils sont en aide à d'autres églises. Et avant eux, le Seigneur a utilisé d'autres personnes, d'autres ministères pour bénir, pour aider notre église. Et dans l'avenir, bon, à moins que le Seigneur revienne avant, mais vous aurez d'autres pasteurs que moi. Au-delà des pasteurs, et je pense même des ministères à temps plein, on peut penser même aux membres qui sont engagés dans les différents services de l'Église, soit la louange, à l'accueil, au ménage, ou tout. Il y en a beaucoup qui ne sont pas convertis dans cette Église. Ils sont convertis ailleurs, souvent dans une autre région du monde, ou de la France. Et puis, pour des raisons d'études professionnelles, ils ont déménagé. Par ici, ils ont rejoint notre communauté, on était tout contents, on est contents de les accueillir, hein, et s'engager ici. Et puis un jour, il y en a peut-être certains d'entre nous encore qui vont devoir déménager pour X raisons, dans une autre partie de la France ou du monde, et ils serviront l'Église là où ils seront. Et la parole de Dieu nous montre que tous ces mouvements, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Bien au contraire. On voit bien que c'est le Saint-Esprit qui conduit ça dans le livre des Actes. C'est un moyen que Dieu utilise même pour faire comprendre que son peuple, il est bien plus grand que notre communauté locale. Bien plus grand que nos frontières même. Et autant nous nous réjouissons de voir arriver du renfort dans notre communauté, quand il y a des nouveaux qui arrivent et on est content d'avoir du renfort, hein, autant nous devons être prêts à laisser partir et bénir ceux qui vont aider l'Église du Christ ailleurs. La parole de Dieu nous invite à être généreux au-delà des limites de notre communauté locale. Généreux financièrement, on l'a vu avec l'exemple, hein, ils aident une autre Église, mais aussi généreux ministériellement, on pourrait dire, hein, c'est-à-dire en partageant les ministères, les dons que Dieu a fait à notre communauté. Et en fait, Quand vous lisez Éphésiens, qui parle des cinq ministères qui ont été donnés à l'Église, il ne parle pas ici de l'Église locale, mais de l'Église, le corps du Christ, l'Église universelle. Et lorsque nous sommes dans cette attitude, soyons confiants, pas inquiets. L'Église, elle ne nous appartient pas, c'est le corps du Christ. Et Christ veille sur son corps. Christ veille sur son Église. Amen. Voilà donc trois pistes pour être une communauté qui vise bien sa diversité et qui rentre dans cet appel prophétique, ce témoignage prophétique à travers cette diversité. Premièrement, être toujours centré sur celui qui nous réunit, c'est Jésus-Christ. Et toujours se le rappeler, c'est lui, pour lui et par lui que nous sommes là, ensemble. Et deuxièmement, laisser le Saint-Esprit transformer nos raisonnements pour être à l'écoute de Dieu, de sa parole. Et troisièmement, réaliser que notre communauté, elle fait partie d'une réalité bien plus grande. Et c'est pour ça qu'on est tous d'origine différente et qu'on est tous voilà, si diversifiés. Parce que ce n'est pas juste notre communauté, c'est l'Église du Christ qui est dans toutes les nations. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ton Église. Parce que, voilà, c'est ton Église. C'est une grâce de faire partie de ce peuple, de toutes les nations, de toute origine, de tous âges, Seigneur. Ce n'est pas par notre nationalité, ce n'est pas par notre classe sociale, ce n'est pas à cause de notre âge, Seigneur, que tu nous as choisis. C'est grâce au sacrifice de Jésus-Christ, mort pour nous à la croix, ressuscité. Et Seigneur, c'est par ta grâce que nous avons été inclus dans ton peuple. Nous qui ne sommes pas juifs, nous qui étions étrangers, tu as fait de nous des concitoyens des saints, membres du peuple de Dieu, de la famille de Dieu, de ta famille, Seigneur. Et Seigneur, quelle grâce pour cela. Mais je te prie, Seigneur, que tu nous aides en tant que communauté à vivre cette diversité dans la joie, dans la paix, sous la conduite de ton Saint-Esprit. Et qu'à travers cela, Seigneur, à travers nos relations que tu veux enraciner en toi, nous puissions être ce témoignage, Seigneur, autour de nous, dans notre pays, dans notre société qui parfois est bien divisée. Nous puissions être un témoignage de ton œuvre de réconciliation, ton œuvre d'unité, ton œuvre incroyable que tu as accomplie en Jésus-Christ. Viens encore nous toucher, nous habiter par ton Saint-Esprit, Seigneur. Prions au nom de Jésus. Amen.